circonscription et belles lettres de nous avoir invité, Stéphane Milaponi et moi-même, pour cette présentation. On a la suite de ce qui a été dit. Dans le premier temps, je vais vous présenter donc, la partie un peu plus positive donc, de l'utilisation des usages d'Internet. Alors, je me présente d'abord, je m'appelle Michel Gallo, j'appartiens au laboratoire Serious Game Research Lab, qui est un laboratoire qui réunit les pôles de compétences autour des Serious Games, que je définirai tout à l'heure. Je suis également chercheur associé donc, à l'université Jean Jaurès dans le laboratoire EFTS, donc éducation, travail, savoir. De cette université et le laboratoire Serious Game Research Lab est à l'Institut universitaire Champollion à Albi. Alors, dans cette présentation, tout d'abord, je définirai ce que sont les Serious Games. Dans un deuxième temps, je déplacerai la focale sur un cas particulier, enfin un Serious Game en particulier qui s'appelle MechaGenus. Ensuite, nous aborderons toute la partie de ces Serious Games-là. Et enfin, je conclurai par les différentes perspectives. Alors, dans cette présentation, tout d'abord, je présente ici ce que sont les Serious Games. Alors, dans les années 80, le développement des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo destinés aux enfants, pour les enfants, a laissé une empreinte très forte dans la sphère sociale. Certaines critiques que Stéphanie vous présentera tout à l'heure, critiques au niveau de l'addiction. En réaction à ces critiques-là, l'industrie des jeux vidéo très prospère a décidé de mettre dans ces jeux vidéo-là des apprentissages. Alors, un des constats dans les études menées, c'est que ces jeux vidéo développaient beaucoup de compétences cognitives, à savoir, par exemple, la lecture, la compréhension des règles, la dextérité, la motivation, l'immersion. Prenant la suite de ces compétences cognitives-là, on a décidé de mettre dans ces jeux vidéo des apprentissages et on a développé de plus en plus ces apprentissages-là. Alors, dans les objectifs, il existe différents objectifs par rapport à ces jeux vidéo. Ils peuvent être là, ces jeux vidéo, sérieux, ils peuvent être là pour s'entraîner, pour informer, sensibiliser, vendre, apprendre. Donc, en gros, ici, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ici, vous avez un jeu sérieux qui a été fait par Renault, par exemple, simplement pour, ici, permettre aux vendeurs de se perfectionner dans la vente des véhicules. Vous avez ici un jeu qui a été fait par l'armée américaine, simplement pour communiquer sur tous les métiers de l'armée américaine. Vous avez ici un jeu qui s'appelle Dark Four is Dying, qui est un jeu sérieux qui avait pour objectif ici de sensibiliser les personnes aux problèmes de la guerre au Dark Four. Et vous avez ici Pulse, qui est un jeu qui sert à s'entraîner notamment au diagnostic dans les blocs opératoires. Alors, parmi ces Serious Games, vous avez aussi, on a vu de plus en plus maintenant des feedbacks, c'est-à-dire des retours, pour ici permettre de s'en servir comme des outils de formation. Alors, je vous en parlerai plus tard. Vous avez par exemple ici 3D-Bord, qui est un jeu qui permet de former les intervenants du bloc opératoire. Alors, d'un point de vue, c'est Serious Game, ou jeu sérieux, d'un point de vue, ici, étudiant, c'est un outil pour apprendre, comme je l'ai dit. Alors, les avantages du jeu, c'est que ça les plonge dans un univers ludique et immersif, Et ça, c'est un des avantages. Ça propose un rôle, donc, et un scénario très engageant. Vous avez un environnement de jeu, voilà, et en plus, ça permet de proposer un panel d'activités pédagogiques. Alors, l'interactivité, l'expérience de jeu, tous ces facteurs-là ont des conséquences sur les apprentissages. Alors, d'un point de vue ici formateur, le formateur, lui, en pédagogie, lui, il va proposer donc, des mises en situation, il va fournir à l'apprenant des retours sur ce qu'il a fait dans le jeu, il va s'adapter à différents contextes et il va pouvoir suivre ici et évaluer les acquisitions. Et du côté ludique, il va inciter les élèves, élèves ou étudiants ou professionnels, à apprendre, progresser, à s'intéresser à différents domaines. Alors, la question cruciale, on a des serious games dans différents domaines et donc la question que nous nous posons ici, c'est quels sont les impacts en termes d'enseignement-apprentissage en didactique de ces jeux-là. Alors, si je m'appuie par exemple sur Rousseau, en parlant du jeu de façon générale, disait que c'était une ruse pédagogique qui permettait ici d'apprendre, de véhiculer des apprentissages. Donc là, ici, est-ce qu'on ne reprend pas la même thématique, c'est-à-dire que c'est une ruse ici aussi pédagogique. Et puis, d'un point de vue pédagogie, ici, par rapport à une pédagogie dite classique, quels sont les avantages de ces supports-là? Et est-ce qu'il y a un plus? Est-ce qu'on apprend mieux avec? Est-ce qu'on apprend moins bien? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque les apprenants, de façon générale, utilisent ces jeux lors des différentes utilisations? Alors, pour argumenter le propos, je parle donc d'un des jeux, un jeu sérieux qui s'appelle Mechagenus. Alors, Mechagenus a été un des jeux qui a été retenu, il a été financé par le ministère de l'Industrie en 2009 suite à l'appel sur les jeux vidéo sérieux qui avait été fait par Madame Kosciusko-Morizet. Donc Mechagenus, autour de ce projet-là, vous avez différents laboratoires, je citerai ici l'IRI, le Serious Game Research Lab, un laboratoire de génie mécanique, l'Institut Clément Ader, un laboratoire de didactique, le FTS, donc vous avez beaucoup de laboratoires qui existent. Alors j'ai pris quelques photos, ici vite fait, simplement pour le décrire assez rapidement, ici c'est un jeu multijoueur qui est accessible sur internet, qui a été réalisé. Il comprend 203 activités, à savoir donc, dans différents secteurs du génie mécanique, qui peuvent être la production, la fabrication, etc. Alors en deux mots, simplement, le génie mécanique, c'est, pour vous le simplifier, c'est simplement comment fabriquer des pièces. Alors, le joueur, dans ce jeu, vous avez une histoire, c'est une fusée qu'il faut reconstruire, qui s'est crachée, et le joueur doit fabriquer des pièces pour permettre de reconstruire cette fusée et tout ça le plus rapidement possible. Ce jeu a deux modes, un mode game, c'est un mode jeu où vous naviguez dans le jeu, n'importe où, etc. Et puis après un mode training, c'est-à-dire c'est un mode entraînement qui a été fait pour les enseignants, c'est-à-dire pour choisir des parties précises à travailler avec les élèves. Donc dans ce cas-là, on amène les élèves sur des activités très précises ici. Mechagenus a trois niveaux de jeu, un niveau débutant, un niveau confirmé et un niveau expert. Donc pour le décrire assez assez rapidement. Le niveau expert, on arrive à mettre en difficulté des professionnels et des ingénieurs. Quoi. Donc c'est un niveau qui est quand même relativement... Donc, et puis le niveau débutant, n'importe qui ici peut utiliser MechaGenius, il va découvrir simplement avec des activités très simples. Vous avez des activités en anglais ici. Donc voilà. Donc ce jeu est disponible sur Internet directement. Alors la question en didactique, qu'est-ce que j'apprends lorsque j'utilise ce jeu-là, donc lorsque j'utilise MechaGenius. Alors, en didactique, nous, la première chose, c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe lorsque les élèves et les enseignants sont aux prises ici avec ce Serious Game dans les classes. Alors, il y a une partie conception, je vais vous en parler très rapidement, et puis après, nous étudierons l'analyse des usages en classe. Donc, dans la partie construction, tous les savoirs scientifiques ont été validés par des enseignants et des chercheurs en génie mécanique. Et donc, MechaGenius est aussi destiné à des professionnels. Donc, pour cela, les compétences ont été aussi croisées avec donc, l'UIMM, qui sont l'Union des métiers de la métallurgie. Donc, ici, on prend en compte tous les référentiels dans les programmes donc, des classes de seconde jusqu'à donc, au Master 2, en gros. Donc, on prend en compte les programmes. On va regrouper, on va étudier dans la conception toutes les compétences requises. Et à partir de là, on va faire une progression dans le jeu pour que progressivement, les apprenants montent un niveau, etc. Donc, à chaque partie du jeu, donc on connaît exactement l'ensemble des savoirs. Petite parenthèse, ces savoirs sont issus aussi de l'analyse du travail didactique professionnel, c'est-à-dire que nous sommes allés étudier comment les opérateurs fonctionnaient sur les machines et nous avons essayé de prendre en compte le fonctionnement de tous ces opérateurs pour rendre un environnement le plus réel possible. Donc, sur l'utilisation didactique, donc, nous avons, dans un premier temps, travaillé, donc, nous avons fait ce qu'on appelle une ingénierie coopérative, c'est-à-dire que nous travaillons avec les enseignants de génie mécanique, d'une part pour cibler quelle est l'intention et pédagogique et quelles sont les compétences qu'ils souhaitent développer avec ces élèves. C'est-à-dire que lors de nos entretiens, nous regardons où se situe l'intervention, l'usage de MechaGenius, où l'enseignant en est dans les programmes, qu'est-ce qu'il veut développer comme jeu. Donc on a un rôle aussi donc, de construction des séquences d'apprentissage avec eux. Et on va proposer des situations avec MechaGenius. Et à la fin donc, de ces usages-là, on va regarder quels sont les retours, quel est le point de vue de l'enseignant, qu'est-ce qui s'est passé, etc. La plupart des séances sont filmées pour faire un retour aussi avec l'enseignant sur ce qui s'est passé. Alors, juste pour guider l'enseignant, dans ce cas-là, ou le formateur, donc nous avons fait beaucoup d'outils sur Internet pour qu'ils puissent cibler ici le jeu qui correspond au programme avec dans quelle catégorie ils souhaitent travailler. Donc lui, il fait un petit choix en mode entraînement en disant avec mes élèves, moi j'ai des élèves de terminal bac pro, je souhaite travailler telle partie, etc. Donc nous allons les accompagner dans les choix didactiques pour pas qu'ils soient perdus dans ces usages, surtout au début. Vous comprenez bien qu'après, avec le temps, ils ont pas trop besoin. Donc ici, on a les énoncés, à quoi correspond le jeu, qui sait quelles sont les capacités, les connaissances visées, les compétences, et donc on va faire tout ce travail avec lui en disant, toi, cette machine, c'est celle que tu as dans l'atelier, tu peux faire tel jeu à tel moment, etc. Vous avez aussi donc, des livrets d'accompagnement du formateur. Donc, beaucoup de choses sont faites pour les enseignants pour essayer de les accompagner dans l'utilisation de MechaGenius. Lors des usages en classe, nous avons implémenté dans MechaGenius un programme qui va ici enregistrer toutes les actions des élèves lorsqu'ils jouent. C'est-à-dire que ce soit à distance ou en présentiel, derrière on a un moteur, un programme informatique qui va enregistrer tout ce que font les élèves, comment ils agissent et ils réagissent ici lorsqu'ils utilisent MechaGenius. Alors, donc ici dans la conception, on va choisir les jeux et on va ici enregistrer toutes ces traces une à une dans le jeu. Alors ici, par exemple, j'ai ici un des jeux, quel qu'il soit. Donc bon, c'est pas très lisible. Simplement, il faut regarder que ce jeu-là, pour réussir ce jeu-là, il faut choisir ici. Donc vous avez ici des vitesses à choisir. Il y a quatre paramètres. Donc c'est un jeu qui permet la réalisation, la fabrication d'une pièce. Et pour réussir la fabrication de cette pièce, il faut choisir ici la bonne vitesse de coupe. Il faut choisir le bon outil avec le bon rayon de bec si ça parle à quelqu'un. Et il faut ici choisir la bonne profondeur de matière à enlever. Si vous voulez, lorsque vous épluchez une pomme de terre, pour enlever la pomme de terre, il faut la tourner à une vitesse constante, pas prendre trop de matière, etc. Mais si, pour vous l'expliquer simplement, sur ces machines, c'est exactement pareil. Donc, en fait, pour réussir ce jeu, il faut connaître quatre valeurs. Donc, ce jeu, par exemple, il va être proposé aux étudiants ici. Et nous, derrière, on a les quatre valeurs ici, vous voyez. Donc, la profondeur de passe, l'avance, la vitesse et le rayon de bec ici. Donc, ça, ces variables, elles ont été choisies à partir ici des savoirs professionnels. C'est-à-dire que nous, en didactique professionnelle, on est allé filmer des opérateurs sur des machines-outils. On sait comment ils utilisent ces machines-outils-là. Bon, moi, personnellement, je suis de formation génie mécanique, donc il y a beaucoup de choses que je savais aussi, mais très souvent, on allait regarder quelles sont ces valeurs-là. Et donc ici, chaque fois dans les traces à enregistrer, on a ici les valeurs que peuvent suivre, choisir les élèves ici. Donc on a toutes les valeurs et on a le résultat, qu'est-ce qui s'est passé ici, et on a le bilan, mais là, cette phase-là, elle est non réussie, il y a deux blocages, etc. Alors, dans les usages de MechaGenius, très souvent, on demande à l'enseignant de désigner ici un élève. Donc alors, regardant, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque un élève, lorsqu'un élève fort utilise ce jeu-là, et lorsque un élève un peu plus faible l'utilise. Donc là, pour cette partie-là, j'ai choisi vraiment des résultats très contrastés. Dès le départ, il sait que pour réussir le jeu, il faut prendre un grand rayon de bec. Donc lui, il va prendre le bon rayon de bec, il sait qu'il ne faut pas aller trop vite, donc il va prendre une bonne vitesse, etc. Et là, son étape, elle est réussie dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, lorsqu'il est confronté à ce jeu, globalement, il cible les bonnes valeurs. Lorsque, ici, je regarde cet élève-là, dès le départ, lui, il a pris une vitesse trop importante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer les autres valeurs, il ne va pas modifier sa vitesse, et ici, il va user son outil, il va bloquer. Donc là, vous voyez que dans le jeu, il a beaucoup de mal à voir qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu pour réussir ce jeu. Et donc, on a ici un bilan qui, par rapport au premier élève, qui est un peu plus... Donc, ça c'était le cas de deux élèves. Donc, sur les élèves, ça a été suivre sans problème. Ben, lorsqu'on regarde les usages, on a d'une part dans le jeu des scores élevés, hein, des scores plus élevés, on se rend compte que très souvent, les élèves qui n'ont pas de problème vont tester tous les niveaux de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont jouer au monde expert, ils vont jouer au monde débutant, mais ils vont un peu tester au monde confirmé. Parfois, ils vont tester d'entrée le monde le plus dur, ils vont revenir un peu en arrière et puis repartir sur donc, des mondes plus complexes. Donc, ici, dans ces jeux-là. Lorsqu'on regarde en gros donc, les lettres faibles, ici, donc, on le fait jouer à un jeu, hein, donc là je prends un autre jeu de réglage par exemple. Alors, pour arriver donc, au premier réglage de la machine, ils mettent déjà beaucoup plus de temps. Donc les scores sont moins bons, mais on ne peut pas s'arrêter aux scores, parce que les scores, ça ne veut absolument rien dire. Les temps d'usinage sont beaucoup plus longs, donc ils mettent beaucoup plus de temps. Ils ont beaucoup plus d'erreurs et de blocages de la machine. Alors, soit ils cassent la machine, soit ici, ils vont mettre beaucoup plus de temps. Et au jeu, donc plus ils vont monter dans les jeux, et plus ils vont commettre des erreurs de plus en plus dures ici. Donc, et le nombre de coups aussi, vous avez vu que dans la chronique d'action précédente, le nombre de coups est beaucoup plus important ici. Alors, ici, là, pour continuer, je vais vous montrer une étude qui a été faite avec les arts et métiers de Paris. Donc, c'est-à-dire que là, ici, bon, nous avons fait exactement donc, cette ingénierie coopérative où, avec les enseignants de Paris, on a ciblé ici donc, toute une progression et des séquences avec les usages Mecagenus. En deux mots, donc, on a laissé le libre choix à l'enseignant. Donc d'entrée, il jouait à Mecagenus en mode libre, hein, il découvrait un peu le jeu. Et après, ici, dans la formation, on a choisi des jeux, donc l'architecture de machines, etc. Donc on a choisi de les faire jouer à des jeux. Après, donc, on a regardé dans ces jeux le niveau, le score, le nombre total. Bon, et après, donc, à la fonction des jeux, on a mis des notes ici par rapport à ces jeux-là. Alors, outre cette étude-là, donc, on a bien entendu enregistré, mais là, sur Internet, on a enregistré toutes les traces des élèves en présence et tout ce qui se passe, même à distance. Donc, en gros, dans l'étude, en plus de regarder les populations, les traces informatiques. Dans l'étude ici, on s'est rendu compte qu'on avait 31% des élèves qui, en dehors des heures de cours, s'étaient reconnectés sur Internet. Donc ils avaient leur login et leur mot de passe. Et en dehors des heures de cours, eh bien, ils ont dit on va aller jouer, hein, ou voir, ou découvrir, etc. Donc dans ces 31%-là, ici, on en a, donc vous avez les heures correspondantes, bon, on a en gros 50% qui ont joué de 0 à 1 heure comme ça, bon, manière soit de le montrer à quelqu'un, soit de rejouer. Bon. Donc on a exactement les jeux qu'ils ont choisis, etc. Vous avez 33% qui ont joué de 1 à 4 heures, et puis ici vous avez 2% qui ont joué 6 heures et plus, et donc ici on a 8% qui ont joué 4 à 6 heures. Alors, nous, dans notre étude, donc, on a regardé quel était le profil de la population qui avait rejoué donc, en dehors des heures de cours. Donc, on a fait aussi notre étude sur qu'est-ce qui s'était passé en cours, etc., sur les traces. Et donc, on est allé un petit peu plus loin. On a regardé quels étaient donc, les profils de ces joueurs-là qui s'étaient reconnectés. Alors, les étudiants les plus en difficulté, c'est-à-dire que dans le public donc, des arts et métiers, il y a différentes filières et donc les étudiants qui n'avaient pas suivi une formation de génie mécanique ou qui étaient passés par des filières différentes et qui avaient des difficultés se sont reconnectés et la chose la plus marrante, c'est que c'était juste avant l'examen, c'est-à-dire avant l'examen, ils sont venus rejouer pour se perfectionner dans certains jeux. On a ici donc les étudiants qui ont aussi ciblé les jeux en fonction de leur carence au point de vue savoir. C'est-à-dire que ici, les étudiants qui avaient donc des difficultés dans des domaines bien précis ont rejoué dans les domaines donc, où ils avaient des difficultés. C'est-à-dire que dans les traces informatiques, tous les problèmes qu'on a relevés dans les classes où les étudiants avaient du mal à réussir des jeux, eh bien, ils ont repris exactement ces mêmes jeux, etc., chez eux, pour se perfectionner et pour progresser donc, par rapport à ça. Je tiens à rappeler qu'on ne leur a pas dit de faire les devoirs à la maison. On leur a dit, si vous voulez vous reconnecter, vous reconnectez, mais bon, ce n'est pas du tout l'idée première ici. Et donc, à nouveau, les moyennes à l'examen et les écarts types sont plus faibles, parce qu'effectivement, beaucoup d'étudiants avaient fonctionné à côté. Donc, à côté. Alors, dans les perspectives ici, dans les apprentissages, alors, on se rend compte que l'usage de ces series games-là permet des apprentissages, notamment un apprentissage mixte, c'est-à-dire à la maison via Internet et puis donc en cours. On a donc des résultats qui, dans les expérimentations qu'on fait, qui montrent que ces utilisations-là permettent donc de progresser dans les domaines, donc dans le domaine du génie mécanique. Alors, les perspectives par rapport tous ces enseignements-là pardon, et toutes ces recherches, donc, en 2017, nous avons proposé un master qui va ouvrir, qui s'appelle le Master Game. Hein, vous avez donc le cycle au tableau. Donc ici, par rapport à ce master-là, on va reprendre donc, tout le travail qui a été fait sur la création de ces environnements-là pour, d'une part, modéliser des scénarios d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à des étudiants comment on peut donc ici faire ces outils-là. Donc ces outils-là, ça peut être des MOOC, des Massive Online Open Cours, c'est-à-dire des cours massifs pour plusieurs personnes. Ça peut être des simulateurs, parce qu'on a travaillé, par exemple, nous, sur les simulateurs avant de travailler donc, sur les Serious Games. Ça peut être donc, des outils d'aide aux enseignants, des outils de briefing et de debriefing, c'est-à-dire comment aider, donc donner des informations aux enseignants pour qu'ils puissent débriefer avec les élèves, à les aidant donc à reprendre toutes ces traces informatiques-là ici pour qu'ils puissent le travailler avec leurs élèves et donner donc des systèmes, des outils pour l'évaluation, toute l'évaluation donc de l'utilisation des serious games. Alors là, bon, moi je vous ai présenté un serious game qui était bon, dans le génie mécanique, donc ça bon, j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur MechaGenius. Aujourd'hui, ben, on travaille ici sur 3D World, donc notamment, hein, parce qu'il y a plusieurs serious games qui sont en train de se développer. Donc ça c'est pour ECN, je vous en ai parlé au début de diaporama. Donc c'est pour la gestion des risques et la prévention des événements indésirables graves dans le bloc opératoire. Donc ici, je ne sais pas si ça va marcher par contre, parce que j'ai dû changer, donc ça ne marche pas. Enfin, j'avais mis une petite vidéo. Donc ici, c'est simplement donc, pour former aux risques dans les blocs opératoires. Donc on travaille notamment avec le CHU ici de Toulouse et plusieurs laboratoires. Et donc on va, en plus donc, d'enregistrer ce qui se passe lorsque les professionnels du bloc opératoire, donc infirmières, anesthésistes, chirurgiens, disent dans la formation de ce jeu-là, on va aussi donc, faire des outils de debriefing, c'est-à-dire donner à partir de l'utilisation du jeu, donc tout un panel de retour de ces traces informatiques pour que les formateurs puissent revenir sur le jeu avec leurs étudiants pour qu'ils puissent s'en servir comme un outil de formation. Voilà, je vais laisser la parole donc, à Fanny et je vous remercie.